Bon matin à vous tous. Je suis vraiment content de vous visiter. Ça fait déjà une couple de semaines que j'y pense. Et là, je suis là ce matin. C'est avec un plaisir renouvelé. Vous savez, c'est mon pèlerinage annuel qui vient une fois par année. Alors, si je suis turbulent, au moins, je peux me consoler. Il y en a 51 autres semaines que ça va être moins pire. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous. Puis là, quand je suis joyeux de même, je peux me lancer la tête sur les murs. Mais je vais essayer de me concentrer parce que je me suis posé la question, quel message je devais apporter ce matin? Et là, je pense que j'ai le message et il m'a parlé par rapport au message. Maintenant, il reste bien à vous en parler. C'est ce que je vais faire ce matin. Mais en premier, j'aimerais juste faire un retour sur le pas du Seigneur. Vous savez, Fernand Lejeune a été longtemps chez Shawinigan, alors il a déteint sur moi. Le repas du Seigneur, quand on voit le verset qui était dit, écoutez, si j'avais imprimé une Bible, là, il y a le bout de verset que je veux vous lire, que j'aimerais ça qu'il soit non seulement en gras, souligné, mais avec un néon scintillant rouge. Parce que, je ne sais pas si c'est comme moi, mais on lit la parole de Dieu et on est capté par des pensées. On est comme illuminé, c'est comme si ce mot-là devenait en relief dans nos Bibles. Et le bout de verset, ça dit: il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre destin, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus qui a détruit la mort, a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est là que le néon commence à scintiller, l'immortalité par l'Évangile. Vous savez, quand je lis des paroles comme ça, on en parle de Dieu, ça me touche vraiment de plein cœur. Parce que vous savez, ce matin, là, j'avais un flashback en 1981 lorsque je me suis converti, lorsque j'ai accueilli le pardon de Jésus-Christ. Moi, là, j'étais vraiment terrassé par la mort. Je l'ai déjà dit, je ne m'endormais pas le soir, je m'évanouissais parce que j'avais peur de mourir pendant mon sommeil. Quand le Seigneur a détruit la mort, il a acquis toute une victoire. Et en 81, j'ai réalisé que j'étais devenu immortel. Quelqu'un qui avait peur de mourir, quand Pierre m'a annoncé l'Évangile, il me parlait, quand il a dit la vie éternelle, là, quand il a dit ces deux mots-là, là, moi, je t'ai confronté avec la mortalité et de l'autre côté, la vie éternelle. Et mon cœur a été touché par l'Évangile, par l'amour de Dieu. Et vous savez quoi? On a parlé d'un homme riche ce matin. La première phrase que j'ai dit lorsque je me suis converti, j'ai crié, « Yes, je suis sauvé! » Parce que là, je venais juste de faire la paix avec Dieu. Je m'étais repenti de mes péchés. J'avais vraiment regretté mes péchés. Et j'avais accueilli son pardon, le pardon que lui seul peut donner. Et là, je me suis mis à crier, puis sur tes airs, « Je suis sauvé! » Il m'a dit, « Guy, arrête de crier, tu vas scandaliser tous nos collègues de travail. » J'ai dit, « Écoute-moi bien. Je n'ai pas gagné de millions. J'ai gagné des millions de millions. Puis si vous comptez bien, ça fait des trilliards. Puis le roi qui est mort, lui, il avait juste 15 milliards. J'ai réalisé que j'étais pas mal plus riche que ça lorsque j'ai accueilli le pardon que seul Dieu peut accorder en Jésus-Christ. Et c'était une joie, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Alors, je vais revenir à mon sujet, mais je vous prie de me croire, quand on réalise ça de tout notre cœur, il faut vraiment avoir été nécessiteux pour réaliser toute la grandeur de la délivrance. Mettons que je vous coupe l'eau, mettons, là, on n'est pas à Longueuil, mettons que je vous coupe l'eau. Pendant, mettons, 10 jours, là, vous allez avoir une soif. Non, ça se tient de main, là, ça reste une couple de secondes, puis j'ai encore soif. Puis là, je vous donne un verre d'eau. Est-ce que vous allez l'apprécier, oui ou non? Mais si tu viens juste de prendre un verre d'eau, comme moi, ou un bout d'eau, tu l'apprécies, mais pas comme quand ça fait 10 jours. Alors, pour moi, par rapport à l'immortalité, j'ai tout senti le fait que j'étais mortel et que j'allais mourir. Je calculais tout le temps comment il me restait de jours à vivre. Vous savez, je pense que je suis rendu à peu près à 25 000 jours. Puis, c'est fou comment on vit notre vie sans réaliser toute la grandeur de l'éternité. Ce matin, j'aimerais vous présenter l'heure de la bonne nouvelle qui présente cette bonne nouvelle qu'on a été aimé en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, et ce n'est pas juste une bonne nouvelle, juste une nouvelle traditionnelle, parce que le mot « bonne nouvelle » dans son essence même, c'était seulement utilisé lorsqu'il y avait la naissance d'un roi. Lorsqu'il y avait vraiment une grande nouvelle, c'était « euangelion », c'était vraiment « évangile » qui était utilisé. Et vraiment, la bonne nouvelle, ça dépasse toute bonne nouvelle. C'est plus une bonne nouvelle que vous avez économisé 200$ pour vos assurances de char cette semaine. C'est vraiment une autre nouvelle dans une autre dimension. C'est dans une dimension éternelle et immortelle. Et merci Seigneur qui nous a aidés. Maintenant, j'aimerais vous présenter brièvement l'heure de la bonne nouvelle. J'avais une manette que je vais retrouver. J'aimerais vous présenter un peu la série 2015. Là, j'essaie de tout mon cœur. Alors, on va changer la slide, si quelqu'un peut m'aider. OK. Alors, cette année, série 2015, qui va être présentée à partir du 1er février, à partir du 1er février sur les antennes de VTL, il va y avoir la diffusion de 10 émissions qui vont présenter le merveilleux message de l'Évangile. Et j'ai une petite vidéo pour vous, peut-être qu'on peut présenter ça, ça dure 3 minutes, et par la suite, je vous reviens avec d'autres détails concernant ce ministère de l'heure de la bonne nouvelle partout au Québec.
Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle série de l'heure de la bonne nouvelle, qui a pour thème cette année « La solution vient d'ailleurs ». On a choisi cette année un thème, nous on ose toujours quand même, hein? Et là cette année notre thème c'est « La solution vient d'ailleurs ». Il me semble que l'être humain est toujours pris aussi avec un problème et à ce problème-là qui le détruit, la solution ne peut pas venir de lui.
C'est ça.
Elle vient d'ailleurs.
Elle vient d'ailleurs, nécessairement.
Si on n'a pas quelque chose de plus qu'une solution qui vient d'ailleurs, on a beau améliorer la condition humaine, c'est étrange, mais ça ne change pas un problème dans la nature humaine.
Plus loin que je me souvienne, je me rends compte que j'ai toujours recherché le meilleur. Vous savez, le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure recette, la meilleure façon de faire les choses, le meilleur chemin pour se rendre à quelque part. Je me rends compte que cette quête du meilleur était vraiment une manière de pallier à mes diverses insécurités.
Simon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui avais répondu, je veux être heureux. C'est spécial parce que ça décrit pas mal toute ma vie.
Honneur, m'entends-tu? Je vais t'attendre, hein? Faut que tu viennes.
Vu que les choses dans lesquelles qui nous amènent des petits bonheurs passent, hein, ça ne dure pas toujours, est-ce que je peux être sûr qu'il va y avoir un bonheur éternel, en d'autres mots?
Est-ce que vous avez atteint le bonheur, selon vous?
Non, on ne l'obtient jamais. Il manque toujours quelque chose.
Et j'ai réalisé que j'avais cherché à travers la drogue un bien-être artificiel que Dieu me donnait. Gratuitement en plus.
C'est au désir qu'on carbure le plus. Parce qu'on a beau prendre des résolutions, hein? On peut réfléchir sur quelque chose d'intelligent, en disant ça c'est intelligent. Mais pourquoi c'est autre chose? C'est comme si ma volonté, elle est connectée sur autre chose de plus puissant. C'est par la perte d'un bonheur que les gens deviennent dépendants de cette forme de vie.
En réalité, Jésus s'est révélé comme étant le Messie, la solution à son problème, et non seulement à son problème à elle, parce qu'elle va réaliser que les gens qui la condamnent ont aussi des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes.
Pour moi, c'était tellement ridicule, voir comme si on a besoin de Jésus dans la vie, voir comme si on a besoin de lire la Bible puis aller à l'église. J'ai tellement ri de lui.
On rit, mais c'est sérieux, mes amis, parce que Christ a quitté le ciel, il est venu ici-bas, il est allé jusqu'à la croix parce qu'il nous aime.
Alors, je vous invite à venir à lui simplement, tel que vous êtes, sans renier l'état dans lequel vous êtes, et venir à lui pour recevoir, parce qu'il est prêt encore de pardonner chacun de ceux et celles qui se tournent vers lui pour avoir la vie.
L'heure de la bonne nouvelle est dimanche 12h30 sur les ondes de V dès le 1er février.
Voilà un extrait de ce qui va être présenté sur les ondes donc de VTL. Vous savez, non seulement on est diffusé du 1er février au à peu près 12 avril sur les ondes de VTL, mais on est aussi diffusé sur les ondes de Télémag qui couvrent maintenant non seulement Québec, le Saguenay, la Côte-Nord, la Gaspésie et la Beauce, maintenant couvrent toute la région de Montréal via Bell Media. Alors, il y a environ, à l'époque où Montréal n'était pas couvert, il y avait 45 000 personnes par semaine qui écoutaient Télémag. Et j'estime que l'auditoire va monter près de 75 000 auditeurs et téléspectateurs. Et concernant aussi VTL, l'année passée, ça attirait entre 50 et normalement, dans cette case horaire-là, c'est entre 50 et 125 000. C'est moins puissant que TVA, mais c'est une place où on n'est pas chamboulé. qu'on ait respecté dans la diffusion du message. Et on était un peu contraints d'aller à VTL. Mais on a quand même beaucoup d'auditeurs qui nous regardent. Et c'est assez intéressant. Il y a même les DVD de l'heure de la bonne nouvelle qui sont maintenant sont prêts. Dans les années passées, ça sortait pas mal tard, peut-être trop tard. Maintenant, les DVD sont là. Peut-être juste donner quelques statistiques. Au niveau de l'Internet, au niveau de YouTube, on va le voir sur l'autre slide. Maintenant, on est rendu à 3 millions de vues sur YouTube. On a un canal qui s'appelle Channel HBN. Et juste en 2014, il y a eu plus que 1 million de vues sur YouTube des émissions de l'heure de la bonne nouvelle. C'est pour 28 minutes. Normalement, la moyenne, c'est 3 minutes. On aimerait ça qu'il reste 30 minutes, mais c'est 3 minutes, c'est quand même ça. Ça veut dire qu'il y en a qui ont écouté une minute et d'autres plusieurs minutes. Alors, on se réjouit que non seulement à la télévision, la bonne nouvelle est annoncée, mais aussi via Internet et aussi tous les autres sites comme Top TV, Dailymotion, Top Chrétien, et aussi l'Évangile est diffusé via les DVD qui sont distribués un peu partout. Et j'aimerais vous dire par rapport à l'heure de la bonne nouvelle, Dieu voulait... En 2007 année, au mois de mars, si ça brosse pas trop, l'heure de la bonne nouvelle, l'équipe devrait retourner en Israël pour faire une deuxième série de l'heure de la bonne nouvelle. Vous savez, la série de 2013 a été mémorable. On a fait 13 émissions sur les traces de celui qui a changé le cours de l'humanité, sur les traces de Jésus. Et c'était vraiment captivant de voir les gens qui pouvaient prêcher le message de la Bible, mais dans le contexte biblique, dans les lieux géographiques, là où les actions se sont passées. Alors, c'était vraiment fantastique. Et on prie. On a l'acceptation du ministère du tourisme d'Israël, mais ils attendent juste que les choses soient suffisamment calmes et sécures pour envoyer notre équipe une deuxième fois en Israël. Alors, c'est toute une bénédiction. Priez pour ça, ce n'est pas acquis d'avance. Et Dieu voulant, ça sera à la mi-mars que notre équipe va se déplacer là-bas pour l'heure de la bonne nouvelle. Alors, c'est pas mal au niveau des informations que je voulais vous dire. Je ne vais pas prendre tout le temps pour ça. Et juste vous dire de continuer à prier, s'il vous plaît, parce que à partir de dimanche prochain, c'est un rendez-vous à 12h30 sur les ondes de VTL. Et soit dit en passant, si vous manquez l'émission, on vous pardonne. Elle va être en rediffusion le dimanche matin suivant à 6h du matin. Ça veut dire que le 8 à 6h du matin, ça va être l'émission de la semaine d'avant, puis à 12h30, ça va être l'émission numéro 2. Alors, je vous invite à non seulement écouter les émissions, mais inviter les gens que vous connaissez, qui sont ouverts à entendre l'Évangile, qui puissent vraiment capter nos émissions, que ce soit à la télévision ou par Internet. Cette année, il y a un petit changement. Je n'ai pas été le producteur. Il y a un brin de sagesse qui m'est arrivé un peu. J'ai voulu réduire un peu la charge de travail que j'avais. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, vous avez dit, écoutez, Dieu me parle par rapport à la nécessité du repos dans ma vie. Et là, plusieurs ont souri, puis avec raison, j'ai prêché ça à Shawinigan, partout où je prêchais, personne ne me croyait. Je leur disais que je ne voulais plus travailler le dimanche, je voulais garder le jour de repos. Et j'aimerais vous dire qu'en 2014, par la grâce de Dieu, il m'a donné la victoire. Je me suis reposé le dimanche. Au début, je me sentais un peu en pénitence, un workaholic, là. Et là, je voudrais vous dire que cette année, je sens que le combat, il va être là. À date, là, depuis le début d'année, il y a eu quelques failles dans mon affaire. Alors, j'espère juste d'être vraiment guéri pour toujours, mais je me sens un peu comme un alcoolique, puisque je suis workaholic, la rechute peut être très près. Mais j'essaie un peu plus de ralentir et essayer plus de voir ce que le Seigneur veut me communiquer et là où le Seigneur veut que je sois impliqué. Vous savez, je me suis impliqué dans bien des affaires, mais ce n'était pas pour faire des affaires, je vous prie de me croire, c'est que je voyais qu'il y avait un besoin qui n'était pas rencontré et dans mon cœur, je me disais, je suis un égoïste si je ne m'implique pas. J'ai été dans la détresse, dans la misère quand j'étais plus jeune. Puis j'ai trouvé ça difficile, puis je me suis dit, plus jamais, je vais accepter qu'il y ait de la misère alentour de moi. Et des fois, j'ai développé un drôle de syndrome, je vous le confesse, mais par la grâce de Dieu, je chemine et j'essaie d'être transformé. Et c'est le titre du message que j'aimerais vous présenter, si on peut aller au deuxième PowerPoint, s'il vous plaît. Transformé, j'aimerais vous lire un passage, manque de place. Dans Romains chapitre 12, s'il vous plaît, tournez avec moi. J'aime ça quand on peut voir ensemble faut juste de voir ce qu'il y a sur la... Ça fait partie d'une série qu'on a prêchée à Shawinigan, qu'on continue présentement. Et je ne sais pas comment je vais vous communiquer ça ce matin, mais je peux vous dire que la série transformée à l'église de Shawinigan, c'est probablement la série qui a le plus transformé les croyants, et moi y inclus. Vous savez, on vient à l'église le dimanche matin. Les statistiques disent qu'il y a, peut-être 55 millions de prédications qui vont être faites. Les gens viennent à l'église, veulent être touchés par la parole de Dieu. Si vous êtes venu ici ce matin, c'est que vous voulez que Dieu vous parle. Et la parole de Dieu peut certainement non seulement nous parler, mais nous transformer. Et le titre de notre série transformée basée sur Romains 12, versets 1er et 2e, il est dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice divin, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La meilleure façon d'être transformé, c'est se laisser imbiber par la parole de Dieu, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence qui est renouvelée par le contact de la parole de Dieu. Ça a l'air peut-être simpliste, mais c'est ce qu'on a eu à cœur de faire et on voit présentement les résultats dans nos vies. Vous savez, dans le texte, c'est question de conformer et transformer. Conformer, c'est faire ou devenir pareil ou semblable. C'est de se comporter d'une façon conventionnelle en acceptant sans questionnement les coutumes, les traditions et les opinions. C'est en quelque sorte se fitter à un moule, tandis que transformer, c'est de changer la condition, la fonction ou la nature ou le caractère ou la personnalité de quelque chose. Quand on essaie seulement de changer le comportement, on ne règle pas le problème. Mais quand on change les pensées qui vont être suffisamment transformées, le comportement va finir par changer et ça va être un changement durable et efficace pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas donner tous les détails de l'étude, mais je pourrais juste simplifier, résumer en disant que conformer a à voir avec le comportement et transformer a à voir avec le caractère. On peut être conformiste à partir de l'extérieur et transformiste, c'est à partir de l'intérieur. Ce changement intérieur se produit par l'intelligence spirituelle. Vous savez, vous et moi, normalement, on ne change pas tant qu'on ne souffre pas suffisamment. C'est une dure réalité, mais c'est ça quand même. On change quand on est contraint de changer. J'aimerais voir avec vous une parabole et la repenter dans une autre façon, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux le faire vraiment d'une façon différente. Je sais que c'est probablement une place dans vos Bibles, que si vos yeux ont des lasers, que les pages sont quasiment effacées, parce que c'est une parabole qu'on a vu souvent, mais j'aimerais vous inviter à voir cette parabole-là d'un tout autre œil. C'est la parabole du fils prodigue. Et si vous voulez lire avec moi dans Luc au chapitre 15, s'il vous plaît. On va lire quelques passages. Je les mets à l'écran pour ceux qui... Juste avant, si je peux revenir. Vous savez, bien souvent, on voit la parabole, cette parabole-là, comme étant la parabole du fils prodigue. Mais récemment, j'ai découvert que c'est beaucoup plus à propos d'un père aimé. Et tout récemment encore, j'ai appris encore davantage que non seulement cette parabole-là nous parle d'un fils perdu, d'un père aimé, mais d'un fils aîné qui a manqué de meilleur. Et quelle que soit votre situation ce matin, que vous soyez proche de Dieu ou loin de Dieu, la meilleure façon de s'approcher de Dieu, on va le voir dans le verset, c'est d'entrer en nous-mêmes, faire réaliser notre état. On va voir à travers cette parabole-là que si on est loin de Dieu ou qu'on n'est pas en paix avec Dieu, qu'on peut venir à lui, qu'il est prêt à nous accueillir dans son amour inconditionnel. Et la troisième catégorie, on va réaliser que peut-être dans notre être où on a tendance à être religieux, qu'on se pense correct, on est peut-être en train de manquer le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, qui que vous soyez ce matin, je pense que le Seigneur peut vous parler. Alors, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, au verset 11 à 16, il est dit, Elle dit, encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le premier point que je veux faire avec vous, c'est le fait qu'il a dissipé son bien. Et lorsqu'il eut tout dépensé, il commença à se trouver dans le besoin. Et là, commencé à réfléchir, il est entré en lui-même. Le Seigneur nous dit que si on le cherche vraiment, on va le trouver. Il dit, si vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez, de tout votre cœur. Le fils prodigue a réalisé son état. Et il a réalisé qu'il avait fait une erreur en s'éloignant de son père. Il avait voulu chercher à sa manière. Et quelqu'un a déjà dit, « Devenez sérieux à propos de me chercher, dit Dieu, et que vous voulez plus que n'importe quoi d'autre, vous allez me trouver. » Dieu veut nous attirer à lui. Le fils prodigue a entré en lui-même et a réalisé son état. Non seulement il est entré en lui-même, vous allez voir que, parce qu'on est habitué d'entendre cette histoire-là, il est entré en lui-même, puis là, il a réalisé son état. Et là, le deuxième point, c'est qu'il a décidé de confesser, il a réalisé qu'il avait manqué le but que son père avait pour lui. Vous savez, normalement, on entend cette parabole-là, et les gens, normalement, prêchent sur les quatre R. Quand on s'est éloigné de Dieu, ou qu'on est en guerre avec Dieu, qu'on est rebelle à Dieu, normalement, la façon de revenir à lui, c'est de vraiment se repentir. Et se repentir, c'est de reconnaître notre péché. C'est de regretter notre péché. C'est de vouloir réparer. C'est vouloir être restauré. Et c'est vraiment la démarche que ce fils-là a fait pour retourner vers son père. Il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Vous savez, c'est possible de vivre sans Dieu, c'est possible de vivre loin de Dieu, c'est possible de vivre à notre façon. Gaétan Bellemare, à notre église, a dit une phrase que j'ai trouvée vraiment révélatrice. Il dit, « S'éloigner de Dieu, c'est pas difficile, on n'a rien à faire, si vous ne faites rien, vous allez vous éloigner de Dieu. » Mais on doit chercher Dieu, on doit chercher à s'approcher de Dieu à chaque jour. On est aussi proche de Dieu que ce qu'on choisit d'être. Vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu qui bouge, c'est nous qui nous tassons. J'avais mis quelques versets, mais je vais aller un peu plus vite. C'est les versets qui nous disent, ben, peut-être les lire, quand même, c'est la parole de Dieu qui fait son effet. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cache sa face et l'empêche de vous écouter. Ô Dieu, aie pitié de moi, nous dit le psalmiste, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Ça me rappelle encore de mon expérience en 81. J'avais demandé pardon à Dieu, puis je ne sentais pas qu'il me pardonnait. Et là, le lendemain matin, il dit à Pierrot, ton affaire de salut, ça ne marche pas. Je vais demander pardon à Dieu, parce que là, je suis convaincu que la seule façon d'aller au Père, c'est passer par Jésus-Christ, qui est le seul médiateur. Je lui demande de me sauver, puis ça a tout l'air qu'il ne veut pas me sauver. La seule voie de sauvetage qui est valide, je ne peux même pas la saisir. Le Seigneur a attendu quelques heures pour que je réalise l'état de mon cœur. Toute la gravité de mon péché, et quand j'ai réalisé ça, je me suis vraiment agenouillé, même sur mon lieu de travail. Et je suis entré en moi-même, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je réalise que ce que j'ai fait, ça t'a offensé. Moi, je trouvais ça le fun, je trouvais ça trippant, mais ça t'a grandement offensé. Et j'ai réalisé mon état, et je suis allé vers Dieu un peu dans cette optique-là. Et l'accueil de Dieu. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous savez, à travers cette série-là, transformée, on a fait une espèce de check-up spirituel qui nous a permis d'entrer en nous-mêmes. Et on avait mis, même on a aperçu 35 questions avec lesquelles on pouvait se baser pour voir à peu près notre état spirituel. Et Dieu voulait, dans 6 mois ou dans 9 mois, on va regarder ça ensemble pour voir comment Dieu a travaillé dans nos vies. Et là, ce n'est pas pour dire, hey, on est fin, on est beau, on est transformé. Non, c'est juste de voir comment on va pouvoir réaliser, comment on était sérieux dans cette idée-là d'être transformé par Dieu. Parce que vous savez, cette transformation-là ne doit pas venir de nous. Parce que si ça vient de nous, ça va foirer. Une véritable transformation, c'est d'être façonné par Dieu, mais par sa parole, par la communion fraternelle, par la prière, par cette communauté chrétienne. Voici un autre de mes amis, Fernand Montplaisir, il dit, écoutez, nous, là, pour être transformés, là, on est un peu comme une plante. On a juste à se mettre au soleil et c'est Dieu qui va faire pousser et grandir la plante. Tu ne peux pas tirer sur la plante toi-même. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de tirer sur ma plante. Ce n'est pas un grand succès. Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut être renouvelé dans notre intelligence. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Je pense que non seulement on devrait faire cet examen-là pour savoir si on est sauvé, mais un coup sauvé, étant donné que non seulement on est sauvé par la foi, mais on doit marcher par la foi, on devrait s'examiner chacun d'entre nous pour voir si on est en train de marcher selon la foi, ou si on n'est pas en train de marcher sur le coup, comme troll, ou sur une habitude, ou sur une tradition, ou quoi que ce soit. S'examiner soi-même. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais juste vous raconter une expérience. Cette année, je suis beaucoup trop préoccupé par le service de Dieu que par Dieu. Puis là, vous dites, voyons, c'est facile. Ouais, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, arrête de fumer. Tu sais. C'est comme quelqu'un, à un moment donné, j'avais les soins pastoraux pour quelqu'un, puis il y avait quelqu'un qui avait un trouble de boisson, fait que quelqu'un me dit, écoute, tu as juste à lui dire d'arrêter de boire. C'est parce que c'est pas si facile que ça, hein? Il n'y a pas de baguette magique. Vous savez, on a toutes des affaires qu'on lutte avec. Moi, je voulais confesser, c'est le workaholisme. On a tous à lutter, mais cette année, j'ai pris quelques moments, surtout en fin d'année, avec cette série transformée-là, je me suis dit, je vais prier, mais je ne vais avoir aucune requête. Je vais être dans le silence avec Dieu, puis je vais demander à Dieu de me parler. J'avais trouvé un endroit où je n'avais pas de distraction. Et là, j'ai demandé à Dieu de me parler. Je ne vous cache pas que c'est troublant d'entendre Dieu me parler. Dieu m'a dit un certain nombre de choses qu'il a vraiment mis le doigt sur le bout. Autant j'étais un peu atrophié par ce que j'entendais de la part de Dieu, autant je me suis dit, Seigneur, regarde, tu veux que ça soit transformé. Vous savez, on veut être transformé par Dieu, on veut avoir des gros biceps spirituels, mais on ne veut pas aller au gym spirituel. Moi, je sais que vous vivez vraiment des temps difficiles. Puis je sais que ça peut être parfois décourageant. Mais je sais que Dieu est en train de produire quelque chose, une patience, une force spirituelle qui va être incroyable. J'ai eu juste quelques détails concernant la construction, là. Puis je veux vous dire que je vous admire vraiment. Votre patience est mise à rude épreuve. Et en bout de piste, je vous le dis, je le tiens de la part du Seigneur, tout ça peut tout tourner à sa gloire. Mais je sais que ça doit être tough. Je me mets à votre place, là. Non, mais écoute, là, c'est plus drôle, là. Moi, je suis de l'extérieur, puis ça m'affecte. Puis je vous prie de me croire, là. Puis écoute, nous, quand on a eu la construction, nous autres, le même, là, on n'avait pas ces mêmes difficultés-là. Nous, la grande difficulté qu'on a eue, là, croyez-le ou non, je pense qu'on est atteint d'une maladie mentale incurable. Il y a des gens qui l'ont chicané pour les vitres givrées puis non givrées. J'ai pas inventé ça, là. c'est pour dire, puis on va arriver plus tard dans la parabole, là, je vais avoir quelque chose pour vous, qu'on ne voit pas les choses dans la bonne perspective. Je vous invite ce matin à continuer, à persévérer, à avoir les choses dans la juste perspective, dans la perspective divine. Je vais essayer de revenir, là, j'ai comme bifurqué, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Dieu veut vous parler dans le secret. C'est tellement dur. Quels sont ceux qui disent cette semaine, là, Guy, là, j'ai pris 10 minutes, là, breakdown, je n'ai pas demandé aucune requête à Dieu, j'ai dit à Dieu, parle-moi, s'il vous plaît, Seigneur, parle-moi. Alors, je suis votre président du club des pêcheurs. Je vous dis, c'est tellement important, puis je le dis, ce que je ne peux pas comprendre, je vois tellement comment Dieu est grand, comment il travaille, même je prie pour l'annonce de l'Évangile, il y a des choses formidables qui se passent, puis je ne sais pas pourquoi il y a une maladie chronique de l'être humain qui fait en sorte que tu arrêtes de prier, même si tu sais que ça marche. Hey, ça, là, c'est pas loin de la folie, hein? Je ne sais pas pourquoi qu'on est comme ça. Ça doit être la nature pécheresse. On va essayer de se consoler avec ça. Trois. Le plus jeune dit à son père, écoutez là, le bout que j'aimerais attirer votre attention. Le fils, pour pas que je manque ça. Le jeune fils, il dit à mon père, donne-moi ce qui me revient, ma part. Qu'est-ce que dit au père? Donne-moi. Et regardez le changement, la véritable repentance, c'est de changer d'idée par rapport au péché. Et regardez son changement. Au lieu de dire donne-moi, qu'est-ce qu'il dit quand il revient au père? Traite-moi. Puis dans une autre version, ça dit, fais de moi ce que tu veux. Vous savez, vous et moi, on est tout le temps après Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Puis cette année, j'ai décidé de prier, Seigneur, transforme-moi. Fais de moi ce que tu veux. Et ça, c'est pas mal un autre programme. Accepter cadeau, c'est assez facile. Vous savez, on a passé Noël, hein? Puis regardez les enfants, quand tu donnes un cadeau, là, tu viens juste de t'éclipser. Il y a juste le cadeau, puis là, son attention est toute là. Bien, on est comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est appelé enfant de Dieu. On est concentré sur le cadeau, mais on oublie le donateur. Ah, ça, c'est pas chic, ça. C'est vraiment malsain. Je comprends pas pourquoi Dieu nous aime, mais merci, il nous aime, puis il ne changera pas. Wow, ça, c'est toute une affaire. Et là, on vient à l'exhortation de Romain qui nous dit, « Offrez nos corps comme un sacrifice vivant. » Et s'offrir comme un sacrifice vivant de servir Dieu, c'est pas pour être accepté de Dieu, parce que comme M. Ricard l'a dit ce matin, on a la faveur de Dieu, on l'a eu par Jésus-Christ, pas par nous-mêmes, pas par nos œuvres. Puis c'est tellement attaché à nous d'essayer de faire des œuvres pour plaire à Dieu. On est tous dans ce panneau-là. Plutôt que de dire, Seigneur, parce que tu m'as aimé, je me laisse transformer, puis fais de moi ce que tu veux. Puis si tu veux m'utiliser à l'heure de la bonne nouvelle, ou au réseau, ou à Villa du Carmel, c'est correct. T'es prêt. Comme on dit souvent, on ne fait pas les œuvres pour être sauvé, mais on fait les œuvres parce qu'on est sauvé. Et voilà la réponse du Père. Ça, là, c'est le deuxième bout. Là, okay? Le Fils prodigue qui a réalisé, c'est notre état de pécheur, qu'on réalise qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être pardonné, qu'on va à Dieu, puis que là, Dieu nous accueille. Et là, c'est dit, il se leva, il alla vers son Père, comme il était encore loin. Son Père le vit, fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou. Verset 22, « Mais le Père dit à ses serviteurs, « Appelez, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. » Je lui ai tout le temps dit, « Moi, on va être à la place du Père. » J'aurais dit, « Teuve-là tout mon chaudron. » Je lui ai rappelé la traite. « Fiez-vous sur moi. » Mais le Père était tellement content. Puis là, j'arrive à mon troisième point, parce que je ne veux pas manquer mon point, je ne veux pas faire mon Ephraim. Savez-vous quoi? Le fils aîné, qui est un homme religieux, ça nous parle de chacun d'entre nous. Lui, quelqu'un qui a vu ça, au lieu de se réjouir que c'était la journée la plus importante dans la vie du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maugré, il a boudé, il a chigné dans son coin. Il aurait dû se réjouir. S'il avait été proche du cœur du Père, là, il aurait dit, waouh, je vois la joie de mon Père. Même si mon jeune frère, il disait, Chaudron, bon, on a la moitié de l'héritage, quand même, quelque chose. Mais s'il avait été proche de son père, il aurait réalisé toute la joie que son père avait dans son cœur de voir son fils qui était perdu, retrouvé. Ça nous parle à chacun d'entre nous. D'être au diapason, d'être assez proche du cœur de Dieu pour se réjouir avec lui, même quand il n'y a pas des signes flagrants de se réjouir. Voilà le message du Père. « Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » le Fils, qui était proche du Père, se retrouve loin du Père, loin du parté, celui qui était loin du Père est rendu près du Père. Comme une espèce de switch. Et vous savez, je n'avais jamais réalisé ça avant, mais le Fils aîné était aussi préoccupé par les biens du Père plus que par le cœur du Père, plus que par l'amour du Père. Le Fils aîné, quand il a vu son Père, là, qui est en train de faire des folles dépenses, là, il a capoté. Il était aussi attaché aux biens du Père que le premier. Le premier, lui, il a obtenu ça par la rébellion, puis lui, il voulait avoir les biens du Père par l'acceptation. « Gars, je t'ai tout le temps servi, j'ai tout le temps été correct, c'est ci, c'est ça. » Lui aussi était plus préoccupé parce que le Père pouvait lui donner comme héritage plutôt que d'être préoccupé par le cœur de son Père. C'est quelque chose qui peut nous arriver à chacun d'entre nous. D'être préoccupé plus par les bénédictions de Dieu que par Dieu lui-même. Et le Seigneur, le Père, invite le Fils aîné et le jeune fils à se réjouir. Mangeons et réjouissons-nous. Et ils commencèrent à se réjouir. Dans Psaume 68, verset 5, chantez à Dieu, célébrez son nom. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Quatrième chose que j'ai pour vous ce matin, vraiment, puis ça fait toute la différence, je l'ai même encore vécu, voilà une couple de minutes, de chanter, c'est la santé pour nos âmes. Saint-Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, là, je vous dis, on a chanté ça, j'aurais pu m'en tourner chez nous, la job était faite. Je vous dis, il y a une puissance là-dedans de chanter. Il y a des statistiques qui nous disent que les gens qui chantent, il paraîtrait qu'ils sont plus joyeux. Non seulement ils sont plus joyeux, mais la pression baisse. Puis j'avais une note là, scientifique, que la pression sanguine diminue, ça augmente les endorphines, puis même que ceux qui chantent vivent plus longtemps. Hey, c'est thérapeutique. Fait que là, dimanche matin, quand ils allaient venir ici, ils allaient dire, écoute, je m'en vais à ma thérapie du dimanche. Je vous dis, chanter, se réjouir dans le Seigneur, malgré qu'il y a des affaires qui nous... Pardon? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais le but, c'est que le dimanche matin, il y a un effet de groupe qui se sent un peu, là. Mais ce que je veux dire, oui, on doit chanter tous les jours de la semaine, mais ce que je veux dire, le dimanche matin, si on ne le fait pas ensemble, si on n'est pas tout là dans la communion fraternelle pour le faire, on va avoir du trouble dans la semaine. Mais l'idée, donc, chanter, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est la prescription divine. De se réjouir avec le Seigneur. Et le dernier point que j'ai pour vous, ça c'était ma slide au niveau des choses, des prescriptions divines. Je veux finir par ça. Vous et moi, on devrait avoir le désir de s'approcher de Dieu. S'approcher suffisamment de Dieu pour entendre son cœur, pour connaître ses sentiments, pour avoir par la suite les sentiments qui sont en Jésus. Mais de se réjouir que quelle que soit notre situation, quelles que soient nos difficultés, le Seigneur nous demande de se réjouir. Le Fils aîné, il est à pas de bonne humeur. Le Père lui a demandé de se réjouir quand même. Dernièrement, on a eu cette célébration le 7 décembre à Shawinigan, où on était quatre assemblées ensemble. Et c'était vraiment bon d'être ensemble puis de chanter, de louer le Seigneur. Puis de se réjouir à travers tout ce qui est fait. Je n'ai pas eu le temps de tout vous nommer les choses, mais de se réjouir avec ce qui se passe présentement avec le groupe Réseau, qu'il y a aussi l'Académie des évangélistes, avec la Villa du Carmel. Toutes les choses sont en train de se passer au Québec. Moi, je peux vous dire que j'ai le privilège d'être aux premières loges, de voir plusieurs organismes chrétiens qui font en sorte qu'on est unis en Jésus-Christ, qu'on travaille ensemble, qu'on unit nos ressources et qu'on a une meilleure synergie comme peuple de Dieu. J'aurais pu vous montrer un graphique que 15 ministères qui ont été créés dans les années 2000. Et tout ça pour la gloire de Dieu, tout ça pour s'entraider de plus en plus pour chacun d'entre nous. Et je devais vous dire merci aussi pour cet apport que vous avez dans le groupe Réseau, qui fait en sorte qu'on se met ensemble pour réaliser plus que ce qu'on pourrait obtenir si on était chacun dans notre coin. J'aimerais, dans ce dernier moment, que vous puissiez entendre la voix du Seigneur qui dit « Réjouissez-vous avec moi ». C'est là que la parole de l'apôtre Paul encore plus de résonance dans nos cœurs quand il dit « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Sauf erreur, je pense qu'il est en prison quand il écrit ça. Quelle que soit votre situation ce matin. Puis comme je vous dis, je vois vos difficultés par rapport à la construction. Puis je sais que c'est spécial. Mais j'aimerais vous inviter à vous approcher du cœur du Seigneur et entendre son appel, sa voix pour vous qui dit « Réjouissez-vous avec moi. » Parce que si on est capable de monter via satellite plus haut, on est en mesure de voir les choses dans une autre perspective, dans la perspective de Dieu. On veut que toute chose tourne à sa gloire, mais on ne veut pas qu'il y ait de transformation. Dieu a un plan meilleur que celui qu'on peut anticiper et vraiment, c'est ce qu'il veut pour nous. On va prier. Seigneur, ce matin, il y en a d'entre nous qui filent comme le fils prodigue. Il y en a d'autres qui filent comme le fils aîné. Mais Seigneur, on voudrait voir à travers cette parabole-là le cœur du Père et voir ton cœur qui nous invite à se réjouir avec toi qu'en dépit des difficultés, tu prends soin de nous et que tu vas faire tourner toutes choses à ta gloire en ton temps. Seigneur, on veut te demander pardon parce que on a de la misère à accepter ta volonté. Il y a un grand décalage entre ta volonté et notre volonté. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse être soumis à ta volonté et d'être près de ton cœur pour être capable de se réjouir avec toi pour tout ce que tu fais dans nos vies, non seulement de ce salut merveilleux que tu nous as acquis en Jésus-Christ, mais aussi pour cette immortalité que tu nous as donnée et ce séjour dans le ciel qui va être éternel. On veut te remercier pour toutes choses en Jésus-Christ, par lui. Amen. Merci pour votre attention.